comment dire, des distributions, des diffusions de tracts dans les lycées, avec les parents, pour informer les parents, pour informer les associations, parce qu'il y a aussi des associations qui sont pour le SNU, donc il y a quand même beaucoup d'actions à mener contre le SNU, donc ils vont nous faire part de toutes leurs actions. Donc le 18, il y a aussi j'ai sauté le 11 novembre, parce que c'est important,
les deux événements de A Publico
demain, en fait
après demain
oui,
et dimanche
et après donc ça c'est A Publico, donc l'exposition des affiches et le vernissage à 18h et avant une rencontre de débat avec
contre la bombe,
voilà. Le 25 et le 26, on vous rappelle donc le week-end de soutien à l'Union pacifiste, à la librairie Publico, donc un week-end antimilitariste, et on projettera donc l'acte 16 sur le SNU, contre le SNU bien sûr, mais sur le SNU, parce que c'est une vidéo de 13 minutes, mais qui parle de tout ce qui se passe, donc de tout ce qu'ils font donc dans les embrigadements de jeunes, et de tous des interviews de ceux qui sont pas d'accord, évidemment. Et donc, il y aura un débat, suivi d'un débat. Et le 26, le concert de soutien à l'Union pacifiste, donc présenté par Bruno Daraki, et donc avec plusieurs artistes qui viendront chanter. Donc, Nathalie Solans, Philippe Alterac, Pedro Fidalgo, Fabien Elkoubi et Rémi Tarrier.
Parce que la guerre n'est pas une
aventure. Et ça commencera... Alors oui, on n'a pas donné l'heure. Ça commencera dimanche à 16h, donc à l'Union de à la librairie Publico.
Alors 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire.
Merci.
Ah bah oui, c'est important.
Pour le complément de
voilà.
D'info.
Et voilà, c'est la librairie Publico où on peut se procurer De quoi total est-elle la somme. On en a commandé plusieurs parce qu'il est dans le catalogue de cet hiver et le vendredi après-midi, en général, j'y suis. C'est comme ça que Suzanne m'a demandé de venir à l'émission. Donc, si vous avez des questions sur le livre, je répondrai volontiers.
Un grand merci, Mariama, d'être venue.
Merci de m'avoir invitée.
Et merci à Elvira aussi d'être
venue. Oui, une revenante, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, je vous l'avoue.
Merci à Ariel d'avoir passé de superbes chansons. Voilà, et je vous encourage à vous mobiliser contre l'esprit de guerre. À bientôt.
Au revoir. Merci beaucoup.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi.
Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria, u Radio Liberté, 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio Libertaria, 89.4.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio
Libertaria 89.4.
Radio Tahrori 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
temps où le décor volait de la même insouciance, du même battement de rire. Ce temps tissé d'or et d'azur rejoindra les mises dans leur course lointaine. Et rien de tous ces joyeux étés où nos larmes coulaient en sourire ne sera plus dans l'air bleu du soir. Nous marchions serrés dans le même silence, sous le même manteau de pluie. Ce temps s'embuait les jours de rêve et de promesses, s'envolera sans retour. Et rien des nuits où l'autre veillait, caressant d'une main l'inquiétude.
We resisted the ego, we resisted the God. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Et ce soir c'est Jeudi Noir qui démarre avec quelques minutes de retard, on s'en excuse auprès des auditeurs, mais on est dans un format ce soir un petit peu différent de celui d'habitude, puisque c'est moi qui vais vous parler seul ce soir d'un petit livre de Marc Bloch, avec José à la technique toujours. Vous venez d'entendre un titre qui s'appelle « True Lies of History » de Moore Mother, c'est un morceau américain qui date de 2020, et qui, bah, comme d'habitude, nous place sur le thème de cette émission ce soir, puisque je vais vous parler d'un petit texte qui est un classique en fait de l'histoire de guerre notamment. C'est un livre de l'historien français Marc Bloch qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ». Alors c'est un texte qui est un classique ce qu'on appelle l'épistémologie de l'histoire, c'est-à-dire de la réflexion sur la connaissance historique, sur les méthodes utilisées par les historiens. C'est un texte qui date de 1921, de Marc Bloch, donc, qui est un des fondateurs notamment de l'école des Annales en France, qui a été une école très importante dans la discipline historienne, si on peut dire. Et il a été réédité ce petit texte en 2019 aux éditions Alia. Et donc c'est dans cette édition-là que je vous le présenterai ce soir. Pourquoi vous parler de ce petit texte, donc des réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre? Parce que malheureusement, ça vous aura pas échappé, nous sommes dans une actualité très martiale depuis déjà quelques mois et même peut-être deux ans. Et que cette question de savoir comment se forment les nouvelles de guerre, c'est-à-dire comment on peut accéder à la connaissance de ce qui se passe dans une situation de guerre, de conflit armé, est une question qui, ben, finalement, ne concerne pas seulement l'historien. Alors l'historien, évidemment, réfléchit là-dessus dans un second temps, lorsqu'il est temps de faire l'histoire justement d'un conflit. Mais cette question de l'accès à la vérité, de l'accès à la connaissance, lorsqu'on a affaire à un conflit armé, est évidemment une question qu'on rencontre finalement un peu au quotidien, tous les jours, qu'on soit historien ou pas. Et il m'a semblé intéressant d'aller regarder ce que pouvait dire un historien aussi renommé, aussi intéressant que Marc Bloch sur cette question-là. Alors, le texte est de 21, c'est un espèce de long article qui est pas très... C'est un tout petit livre, donc ça fait une cinquantaine de pages. En 1921, on est d'accord, donc c'est un texte qui est publié juste après la Première Guerre mondiale et qui s'appuie tente justement une réflexion sur cette question des fausses nouvelles de guerre juste après la Première Guerre mondiale. Donc il y a une espèce de compte-rendu de différents tentatives, de différents livres qui s'intéressent à cette question-là dès les années 20, donc juste après la Première Guerre mondiale. Donc sans doute la plus grande boucherie de l'histoire moderne. Mais ce qui intéresse Marc Bloch, alors déjà il faut bien comprendre en fait quel est l'objet sur lequel il travaille, sur lequel il réfléchit, parce que les fausses nouvelles de la guerre, il le dit dès le début du texte, ce ne sont pas les fausses informations qui sont liées à un travail de propagande, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mensonges délibérés qui seraient fabriqués par l'un ou l'autre des camps en conflit. Ce ne sont pas non plus des fausses nouvelles volontairement fabriquées par certains journalistes en fonction de leurs options idéologiques ou de leurs options politiques ou du camp dans lequel ils se reconnaissent par rapport à un conflit donné. C'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler parfois des illusions, je dirais, c'est-à-dire en fait ce que les gens ont envie de croire. En tout cas, c'est pas tout à fait ça. Ce qui l'intéresse finalement, c'est la manière dont les situations de guerre, alors c'est pas propre aux situations de guerre, mais c'est particulièrement vrai dans les situations de guerre, comment ces situations vont faire éclore des rumeurs. des rumeurs qui se révèlent, bah, qui sont fausses, mais qui sont au fond des espèces d'erreurs collectives involontaires, dirons-nous. C'est-à-dire comment se forment dans un contexte de guerre des légendes, des rumeurs collectives qui vont empêcher l'accès à la vérité ou propager de fausses informations, mais de manière pas directement délibérée ou pas directement volontaire. Et c'est un phénomène qui est assez assez intéressant parce qu'au fond il est relativement peu mis en avant, je trouve. C'est-à-dire que la critique de la propagande de guerre, c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre. Alors après, il reste à la faire, essayer de comprendre quels sont les outils, les techniques, les méthodes qui peuvent être utilisées par un gouvernement ou par une armée pour défendre, faire avancer son point de vue, ou pour laisser ce qu'on appelle les éléments de langage ou les fake news encore aujourd'hui. Quoique ce terme de fake news est un peu ambigu, parce que pour le coup, effectivement, il renvoie en fait à de la propagande dans ce qu'elle a de plus classique, c'est-à-dire que quand il est utilisé, en tout cas le sens anglo-saxon de la notion, c'est ça, hein, c'est des fausses nouvelles qui sont délibérément fabriquées pour tromper le public ou pour tromper l'opinion publique. Et au fond, c'est pas exactement ça qui intéresse Marc Bloch, parce que le phénomène de la rumeur ou de la fausse rumeur, c'est encore autre chose, parce que il n'y a pas réellement d'auteur ou il n'y a pas réellement d'intention. C'est pas un mensonge, quoi. C'est pas un mensonge délibéré. Ce n'est pas non plus une illusion, c'est-à-dire quelque chose que des gens se mettent à croire ensemble parce qu'ils ont envie de le croire. En tout cas, c'est pas exactement ça. C'est une espèce de phénomène un peu hybride, parce que il peut s'appuyer sur un fait réel, mais qui la plupart du temps va être mal interprété. Au vu du contexte dans lequel et des attentes qui sont ceux des témoins, en l'occurrence. Alors, cette question du témoignage, évidemment, elle est cruciale de manière générale pour l'information et pour la découverte de la vérité. Mais en cas de guerre, effectivement, en situation de guerre, c'est encore plus crucial parce que les nouvelles qui peuvent accéder à l'arrière ou qui peuvent petit à petit dessiner une espèce de connaissance ou de description de ce qui se passe sur le front, elles reposent pratiquement exclusivement sur des témoignages. Alors, des témoignages de soldats engagés dans les combats, ou des témoignages éventuellement, quand c'est le cas, mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est très peu le cas, de correspondants de guerre, donc de travail de journalistes qui servent à faire remonter ça. Mais ces journalistes, la plupart du temps, en fait, s'informent auprès de sources militaires ou auprès de témoins directs. Donc, en fait, il y a cette espèce de le mécanisme, en fait, qui intéresse Bloch, c'est la question de savoir comment des témoins vont en quelque sorte comprendre de travers, si on peut dire les choses comme ça, à un moment donné, un événement ou un fait réel, et comment ce fait réel va donner lieu, à la suite de leur témoignage, à une rumeur et à la propagation d'une fausse, de ce qu'il appelle une fausse nouvelle de guerre. Donc c'est au fond un espèce un phénomène assez assez précis, en fait, qui intéresse Bloch et qui garde une part un peu comme l'intérêt, il me semble, de ce phénomène-là, c'est que c'est quelque chose d'un peu plus complexe et de relativement moins explicable qu'un travail de propagande ou qu'un travail de mensonge d'État ou de mensonge stratégique proprement dit, quoi. C'est-à-dire que repérer, en fait, qui est Bon, je sais pas si je prends un exemple, les exemples des batailles de chiffres ou des batailles de descriptions ou de mots auxquels on assiste actuellement à l'occasion des bombardements israéliens sur Gaza. Bon, voilà. Donc voilà, est-ce que qui parle, hein? Est-ce qu'on a effectivement les chiffres qui nous viennent du ministère de la Santé du Hamas? Est-ce que c'est les chiffres qui sont proposés par l'armée israélienne? Évidemment, c'est pas les mêmes. Voilà, c'est les fameuses fourchettes entre les chiffres de la police et puis ceux des manifestants. Évidemment, en cas de guerre, c'est multiplié par 1000, par là. Donc là, c'est dans ce cas-là, on anticipe sur le fait que chacun des parties dans le conflit va en fait chercher à intoxiquer, tout simplement, l'opinion publique ou à propager des mensonges. Mais dans le cas de la fausse nouvelle, c'est autre chose, parce qu'il y a une part un peu contingente. C'est-à-dire que ça pourrait ne pas se développer, une rumeur. Ça pourrait ne pas se développer. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'intention forcément délibérée derrière. Et pourtant, évidemment, on va avoir comme ça des rumeurs qui vont se développer à l'arrière et qui petit à petit vont prendre corps, peuvent parfois prendre une importance démesurée. Je pense à un autre exemple. Alors, ce n'est pas celui dont parle le bloc, là. Mais c'est quelque chose sur lequel les historiens ont aussi beaucoup travaillé. C'est au sein d'une période historique aussi très troublée, la Révolution française. C'est ce qu'on a appelé la grande peur qui se développe un peu partout en France juste avant la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Alors ça, c'est un phénomène aussi assez comparable, c'est-à-dire c'est une fausse nouvelle. Alors on n'est pas en situation de guerre, enfin quoi qu'une révolution c'est bien une guerre civile, hein, mais il y a eu cette espèce de terreur en fait qui s'est répandue un peu partout en France, dans des endroits très divers, à peu près au même moment, et qui était en fait la peur d'une espèce de contre-révolution massive organisée par les nobles avec un appui de l'étranger. Et qui a donné lieu, en fait, à une espèce de panique collective, on va dire, hein, en France, juste avant la nuit du 4 août, où, en fait, les châteaux ont été pillés, incendiés, les nobles exécutés de manière sommaire un peu partout en France, sans qu'il y ait eu, visiblement, de consignes ou d'intentions ou de programmes particuliers développés là-dessus. Et ça a évidemment des conséquences énormes, puisque derrière aussi, c'est dans ce contexte-là, de la grande peur, que va être votée l'abolition des privilèges à l'Assemblée nationale, et c'est un événement qui pour le coup est fondateur hein, dans la Révolution française, l'abolition des privilèges héréditaires. Donc ces rumeurs-là, elles peuvent avoir au cours de l'histoire après des effets tout à fait réels, même si les historiens s'aperçoivent que au départ, il peut y avoir et il y a très souvent en fait une conjonction d'événements un peu fortuits, c'est-à-dire que ce qui compte, et c'est là-dessus que Marc Bloch va travailler et là-dessus qu'il essaie de réfléchir dans les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, ce que l'historien doit finalement expliquer, c'est pourquoi un événement fortuit qui, dans une situation ordinaire ou normale, aurait tourné très court, c'est-à-dire que quelqu'un peut se tromper, voilà, sur sa description d'une situation ou sur ce qui s'est passé ou sur le témoignage qu'il va donner. Mais dans une situation normale, en fait, il va être réfuté ou il va provoquer le scepticisme. Et en fait, la chaîne va se couper rapidement. Et la question que se pose Bloch, c'est finalement qu'est-ce qui fait que cet événement, un événement fortuit, compris de travers, qui donne lieu à un témoignage du coup erroné mais involontaire, va ensuite se propager. Finalement, sous la forme d'une rumeur collective, avec parfois du coup derrière des conséquences complètement imprévisibles, quoi. Et donc c'est en ça, je trouve qu'effectivement l'objet en fait sur lequel il travaille est assez fascinant, parce que il y a une partie. Alors donc évidemment, pour un historien, il s'agit d'essayer d'expliquer un phénomène comme celui-là, mais il y a quelque chose de pas complètement rationnel en fait hein, dans la propagation d'une rumeur, dans le succès d'une rumeur et dans le fait que elle va, voilà, des milliers, des dizaines de milliers de personnes vont tout à coup se trouver convaincues par un témoignage erroné, et ce qui fait que toutes les mécanismes qui d'habitude permettent d'être prudent ou de contrôler un témoignage ou une information sautent ou se trouvent en quelque sorte neutralisés. Et ce que Bloch cherche à comprendre, c'est finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut comme condition, une espèce de psychologie collective en quelque sorte hein, quel est le milieu, la psychologie collective dans lequel une rumeur, une fausse nouvelle de guerre peut se propager, hein. Et évidemment aussi comment elle se déclenche, c'est-à-dire quelles sont les légères torsions, les petits décalages, les dérapages initiaux qui font que dans un milieu particulier, dans une psychologie particulière, celle qui est liée effectivement à un contexte de guerre, eh bien des fausses nouvelles comme ça vont pouvoir se propager. Donc ça, c'est pour la définition, je dirais, voilà, de ce qui va l'intéresser. Une fausse nouvelle de guerre, c'est pas un mensonge, c'est pas un travail de propagande, c'est pas non plus une espèce d'illusion collective, hein, où des gens tout à coup se retrouvent et se confirment et se confortent parce qu'ils ont finalement les mêmes aspirations ou les mêmes désirs. C'est un peu une espèce de, voilà, encore autre chose, c'est-à-dire voilà un événement fortuit, un fait réel interprété de travers. par un ou par quelques témoins, et qui va ensuite donner lieu à une espèce d'épidémie, en quelque sorte, hein, d'épidémie qu'on appelle la rumeur. Et comme on sait, une épidémie, en fait, pour qu'elle se propage avec succès, il faut qu'elle se propage dans un certain milieu. Donc, ce que l'historien doit faire, d'après Marc Bloch, hein, pour comprendre rétrospectivement une fausse nouvelle de guerre, c'est d'abord essayer de comprendre quel est l'agent déclencheur, l'événement déclencheur, en quelque sorte, mais surtout, et peut-être d'abord, essayer de comprendre quel est le milieu propice à la propagation de cette fausse nouvelle. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu. Et alors évidemment, on est ici à la frontière entre le travail de l'historien et puis le travail du psychologue. Hein. C'est ce que dit Marc Bloch dès le départ, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de montrer justement. Il démarre là-dessus, hein, en montrant que finalement, un historien a beaucoup à apprendre de la psychologie du témoignage. Et il cite comme ça un certain nombre de travaux menés par des psychologues français, mais aussi allemands. Hein, on est en 21 et du coup, il a accès à des sources qui ne sont pas simplement celles des recherches françaises. Et il y a tout un travail avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, sur ces questions-là, de savoir effectivement comment des témoins enregistrent des informations et les restituent. Et ce que montre Bloch, c'est qu'effectivement, les recherches de psychologie du témoignage prouvent que finalement, les témoins, en général, se plantent à peu près toujours, au moins en partie, sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, les leçons de la psychologie du témoignage, c'est qu'il y a un témoin objectif, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de témoignage, il n'y a quasiment jamais de témoignage objectif ou de témoignage qui tienne compte de l'ensemble des paramètres ou des détails d'une situation. Ça, c'est assez fascinant. Alors, il en parle, il y a notamment des expériences qui sont faites. Alors, c'est un truc, c'est assez marrant, qu'il cite au début du texte. Il cite les travaux d'un psychologue. Alors, c'est un allemand, pour le coup, un psychologue berlinois qui s'appelle Jaffa, un criminologiste, qui avait, lui, carrément, alors c'est en 1903, hein, tout au début du XXe siècle, qui avait en fait organisé une espèce de faux attentat auquel il avait fait assister un certain nombre d'étudiants en psychologie, et ensuite il leur avait fait après un certain laps de temps, et puis avec différentes durées de décalage par rapport à l'attentat, il leur avait demandé de raconter ce qu'ils avaient vu. Hein, et avant de leur donner plusieurs semaines plus tard le déroulé et de l'organisation de l'attentat qui avait été scénographié de manière extrêmement précise. Et en fait, la leçon de ça, c'est qu'évidemment aucun des étudiants assistant à ce qu'ils pensaient être un attentat n'a été capable de décrire et de restituer correctement ce qui s'était réellement passé. Or là, on peut savoir ce qui s'était réellement passé parce que tout le déroulé du faux attentat, si vous voulez, avait été organisé évidemment par ce criminologue Liste, à Berlin, et donc on savait très précisément dans quel ordre les événements s'étaient produits, ce qu'avaient fait les uns et les autres, qui étaient en fait des acteurs engagés pour ça. Et donc la leçon effectivement de la psychologie, c'est que en fait il n'y a jamais de témoin complètement objectif, et qu'en fait ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a toujours de toute façon des détails, la plupart du temps des détails très concrets, très précis, qui échappent à des témoins. Et il y a une autre limite de la psychologie, et c'est pour ça que ça engage le travail de l'historien, d'après Marc Bloch, c'est que le travail d'un psychologue du témoignage, il porte toujours sur des témoins directs. C'est-à-dire qu'en fait, en laboratoire ou sur effectivement une expérimentation dont on peut contrôler comme ça les paramètres, le psychologue n'aura affaire qu'à des témoins directs d'un événement. Donc ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'objectivité ou le manque d'objectivité d'un témoin ordinaire. Mais dans le cas des fausses nouvelles de guerre ou dans le cas des rumeurs, là où ça se complique beaucoup, nous dit Marc Bloch, c'est qu'en fait, il y a la question du témoignage initial, et de savoir ce qui lui manque, et il manque toujours quelque chose dans un témoignage, mais évidemment, ensuite, il y a toute une chaîne de transmission. Il y a toute une chaîne de transmission, et avec des déformations, avec des amplifications, même si effectivement la fausse nouvelle initiale va se transmettre. Hein. Et ça, évidemment, c'est un travail que le psychologue ne peut pas faire. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que Marc Bloch va s'intéresser au contexte de la guerre, parce qu'il pense qu'avec la Première Guerre mondiale, si on laisse de côté, évidemment, tout le côté atroce de la chose, eh bien, en fait, on a une espèce d'expérimentation sociale à échelle à échelle monde, quoi, en quelque sorte, hein, dans cette affaire-là. Et donc, c'est ce qui justifie, pour lui, le fait qu'on ait affaire à une question spécifique, hein, pour les historiens, et pas simplement une question de psychologie sur l'objectivité, voilà, du témoignage. On va faire peut-être une première pause musicale, et puis après, on regardera comment, du coup, Marc Bloch essaye de trouver des éléments d'analyse, de compréhension de ces fausses nouvelles de guerre. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie ce soir. Vous venez d'entendre Famous Imposters sur un morceau qui s'appelle War Lies, un morceau anglais de 83 et qui vient tout à fait à propos pour illustrer le livre que je vous présente ce soir, donc dans un format un peu différent d'habitude, puisque je suis seul avec José à la technique, et je vous parle des réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, un texte classique de Marc Bloch, réédité aux éditions Alia en 2019. Alors, je reviens pas sur le contexte dans lequel nous sommes, qui justifie en fait un petit peu de relire ce classique de Marc Bloch, de cette réflexion sur les méthodes de l'historien confronté aux fausses nouvelles de guerre. Je voudrais peut-être dans cette deuxième partie de l'émission donner un peu quelques exemples justement des rumeurs. Qui ne sont donc pas des mensonges, hein, ou des mensonges de propagande, mais en fait des rumeurs qui naissent en quelque sorte de manière quasiment spontanée, hein, dans dans le cas de guerre. Quels sont les exemples qui intéressent Marc Bloch? Alors, je l'ai dit, le texte est de 1921, donc évidemment, il n'a pas l'ambition de donner une théorie définitive sur cette question-là. Hein. On est 3 ans après la fin du conflit. Mais dès ces années-là, en fait, Marc Bloch va s'intéresser à un certain nombre d'études, de textes qui sont produits par des historiens, un historien belge, un historien anglais notamment, et un allemand. Qui en fait essaie justement de s'intéresser à ces phénomènes assez étonnants qui sont ceux de la naissance des rumeurs. Hein, la naissance des rumeurs sans être forcément concerté, sans être forcément programmé, sans vouloir forcément chercher à intoxiquer l'opinion. Alors il y a trois textes là qui compile dans son article. Alors, il y a un premier qui l'écarte assez vite parce qu'en fait justement pour lui, d'après lui, c'est un il y a un contresens en fait sur les sources choisi. C'est le travail d'un Belge, le docteur Lucien Gros, qui s'appelle justement Les fausses nouvelles de la Grande Guerre. Alors apparemment, il y a 7 volumes complets. Bon, voilà, donc très très long. Mais en fait, ce que Marc Bloch reproche justement à ce bon docteur Gros, c'est de s'appuyer pratiquement uniquement sur des coupures de presse. Et en fait, d'après Bloch, il y a forcément un biais dans cette affaire-là, parce que justement, le travail de la presse est un travail qui est en fait un travail de second, voire de troisième, voire de quatrième rideau. C'est-à-dire qu'en fait, la presse, d'une part, en situation de guerre, est rarement complètement indépendante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, il y a aussi un biais qui en fait gêne Bloch dans cette affaire-là, c'est que le travail journalistique en fait est lui-même très codifié, et finalement les textes et la manière de décrire les événements sont très souvent déjà préformatés par le travail d'écriture journalistique lui-même. Donc en fait, c'est pas trop ça qui l'intéresse. Donc il écarte assez vite ce travail du bon docteur Gros là. Pour s'intéresser à un deuxième, qui est celui d'un historien anglais, alors qui lui semble déjà plus intéressant, parce que c'est un sociologue qui s'appelle Monsieur Oman, et qui a co-signé, qui s'intéresse lui à deux rumeurs particulières, enfin une rumeur en particulier, qui visiblement s'est répandue à la fois en Grande-Bretagne et en France au mois d'août 1914, c'est-à-dire à un moment où les troupes prussiennes et allemandes ont percé en quelque sorte le front français, enfin notamment ont avancé en Belgique et sont rentrés sur le territoire français de manière un peu inattendue, hein, parce que effectivement on s'attend, les Français s'attendent à leur mettre une rousse quand même aux Prussiens, rappelez-vous hein, le départ, les soldats qui partent fleurs au fusil, etc. Les Anglais sont très surpris aussi, et en fait il semblerait donc en août 14, qui est un moment un peu critique, c'est-à-dire qu'effectivement les Français ont l'impression, ont le sentiment d'être débordés hein, par l'offensive allemande. Il y a une rumeur qui s'est répandue, et qui s'est répandue comme une traînée de poudre, hein, nous rappelle Marc Bloch, c'est que les Russes, par dizaines de milliers, étaient censés avoir débarqué, alors selon les uns, dans des ports écossais, selon d'autres, à Marseille, pour grossir les rangs des alliés occidentaux. Et il semblerait du coup que cette rumeur-là, pour le coup, soit née à l'arrière du front. Hein. Et alors, il y a tout un travail qui intéresse beaucoup Bloch. C'est le travail que fait donc ce sociologue anglais, là, Oman, qui cherche justement à expliquer en fait comment de l'arrière a pu naître cette rumeur manifestement fausse. Hein. Et donc, alors, les éléments que propose Oman, c'est quoi? C'est que, en fait, cette rumeur-là, d'après lui, effectivement, exprimait une espèce d'attente, un espèce d'état d'âme collectif, assez difficile à dont on peut comprendre les raisons assez facilement, même si les causes sont plus complexes à expliquer. Alors, il cite hein, le désir passionné de voir se renforcer le front pour lequel on tremblait, le prestige de la Russie, conçu par la pensée populaire et dépeinte par la presse comme une espèce d'inépuisable réservoir d'hommes. Et alors, l'hypothèse que Oman fait... c'est prudemment, hein, c'est qu'en fait cette rumeur aurait été lancée suite à la présence à Édimbourg d'officiers d'état-major russes et à Liverpool de réservistes russes qui seraient arrivés d'Amérique. Hein, et qui était de retour d'Amérique en 14. Et alors ça, c'est l'hypothèse que fait Oman, mais en fait, ce qui satisfait pas Bloch, c'est que Ça serait un peu trop simple, cette affaire-là. Là, pour le coup, on aurait un modèle qui serait un petit peu celui de l'illusion collective. C'est-à-dire que là, on a effectivement cet événement fortuit, des uniformes, une langue étrangère, etc. Mais, en fait, là où ça colle pas, d'après Bloch, c'est qu'en fait, la rumeur est née en même temps en Angleterre et en France, visiblement. Et donc, du coup, il faut effectivement essayer de se poser cette question-là. Hein. Comment, effectivement, quels sont les mécanismes qui ont pu conduire à cela? Alors, et visiblement même sur plusieurs points hein, du territoire français et du territoire anglais. Alors, je cite là Bloch là-dessus, c'est page 27 là, hein, de ses réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre. La psychose collective était partout la même. Les incidents qui, dans chaque cas particulier, furent l'occasion du faux récit, différents dans leurs détails, se trouvèrent vraisemblablement pareils dans leurs traits essentiels. À savoir, c'était la vue d'uniformes inaccoutumés, une langue inconnue parlée par des soldats étrangers. Des perceptions qui étaient justes en leur principe, mais qui étaient mal interprétées et unanimement déformées pour s'accorder aux ardents désirs de tous. Telle fut sans doute l'origine de la fausse nouvelle russe, comme de tant d'autres. Alors, on a une première tentative de la part de Bloch pour essayer du coup de circonscrire en fait cela. Alors, ce qui va l'intéresser ensuite, c'est le travail d'un sociologue belge qui s'appelle Van Langenhove et qui, lui, va travailler sur une autre rumeur qui, elle, s'est répandue du côté allemand, pour le coup, au moment de l'offensive des Allemands en Belgique. Et alors, c'est une rumeur qui a connu apparemment un écho énorme en Allemagne. C'était la rumeur selon laquelle il y avait des francs-tireurs belges qui commettaient des atrocités sans nom sur les prisonniers, les blessés et les soldats prussiens en marche à travers la Belgique. Et alors ça, c'est intéressant aussi parce que le texte de Langenhove, alors lui, c'est le terme, le légende qu'il utilise, hein, le texte que cite Bloch, c'est « Comment naît un cycle de légendes, francs-tireurs et atrocités en Belgique ?» Alors, c'est, donc le livre est de 17, là, pour le coup. Et l'intérêt de ce livre pour Bloch, c'est qu'en fait, l'auteur belge, donc, n'a consulté que des sources allemandes, pour le coup. Et il montre, alors, c'est des sources qui sont diverses. Alors, il y a des sources de presse, mais pas seulement. Et il montre que donc on trouve dans plein de canaux l'idée que les Belges des deux sexes étaient en fait des bêtes altérées de sang. Hein. Et donc la rumeur, c'est quoi? C'est qu'on avait à la tête des espions, des francs-tireurs, des massacreurs de blessés, des pétroleuses. Et parmi en fait tous ces monstrueux Belges assoiffés de sang prussien, il y aurait eu notamment des prêtres. Et alors ça a un écho très particulier en Allemagne, notamment dans les régions catholiques, parce que du coup vous avez des membres du clergé allemand qui vont essayer de comprendre cette rumeur-là, alors pas tellement pour chercher la vérité, ça on le comprend assez vite, mais pour exonérer les prêtres belges, pour pas que le clergé catholique allemand soit en quête associé à des prêtres sanguinaires belges. Et alors donc, il le dit avec un peu d'ironie, il nous dit « L'amour de la vérité absolue n'inspirait pas les travaux du père Dürr, sur lequel s'appuie le sociologue belge, hein, que la population belge dans sa masse fût coupable ou bien injustement calomniée, là n'était pas la question, il fallait seulement que le clergé belge fût reconnu innocent. » une fois l'honneur des prêtres vengés, rien n'importait plus, hein, dit Bloch. Et alors, il est assez élogieux du travail de ce sociologue belge. Mais en fait, il essaye il montre comment à partir de ce livre, on peut peut-être commencer à essayer de trouver une espèce de schéma général qui permette d'expliquer en fait le fonctionnement de ces fausses nouvelles de guerre. Alors, il distingue au fond trois étapes. La première étape et la première condition pour qu'une fausse nouvelle de guerre se répande, c'est la présence d'un état d'âme, de ce qu'il appelle un état d'âme collectif. Alors là, dans le cas des atrocités des francs-tireurs belges, alors il nous le présente comme ça, il dit « Le soldat allemand qui, la guerre à peine commencée, entre en Belgique, vient d'être tout à coup enlevé à ses champs, à son atelier, à sa famille, ou du moins à la vie réglée de la caserne. De ce dépaysement soudain, de ce brusque déchirement des liens sociaux, essentiels, naît déjà un grand trouble moral. Les marches, les mauvais logements, les nuits sans sommeil fatiguent à l'extrême des corps qui n'ont pas encore eu le temps de s'assouplir à ces dures épreuves. Combattants novices, les envahisseurs sont hantés de terreurs d'autant plus fortes qu'elles demeurent nécessairement assez vagues. Les nerfs sont tendus, les imaginations surexcitées, le sens du réel ébranlé. » Et il continue évidemment sur cette description de la psychologie collective, indispensable comme milieu de départ, hein, nourrissant la rumeur. Or, ces hommes, nous dit Bloch, ont été nourris de récits relatifs à la guerre de 1870. Dès leur enfance, on leur aura rebattu les oreilles des atroces exploits prêtés aux francs-tireurs français. Ces contes ont été répandus par le roman, par l'image, des ouvrages militaires leur ont conféré une sorte de garantie officielle. Plus d'un manuel que les gradés ont dans leur sac enseigne comment on doit se conduire envers les civils rebelles. C'est donc qu'il y en aura. La résistance des troupes belges, l'hostilité de la population belge étonne profondément l'Allemand du commun. Il ne croyait faire la guerre qu'aux Français. Le plus souvent, il ne connaît pas la réponse du gouvernement de Bruxelles à l'ultimatum du 2 août. S'il la connaît, il ne la comprend pas. Sa surprise se change aisément en indignation. Il croit volontiers capable de tout le peuple qui ose se dresser devant la nation élue. À savoir les Allemands, bien sûr. Ajoutez enfin que dans les esprits traîne à l'état de souvenir inconscient une foule de vieux motifs littéraires, tous ces thèmes que l'imagination humaine, au fond très pauvre, ressasse sans cesse depuis l'aurore des âges, histoire de trahison, d'empoisonnement, de mutilation, de femmes crevant les yeux des guerriers blessés que chantaient jadis Aedes et Trouvère, que popularise aujourd'hui le feuilleton et le cinéma. Telles sont les dispositions émotives et les représentations intellectuelles qui préparent la formation légendaire, telle est la matière traditionnelle qui fournira à la légende ces éléments. Donc il faut effectivement que ces aliments soient présents au départ, hein, nous dit Bloch. Bon, ce qui est pas révolutionnaire en soi, mais ça suppose évidemment tout un travail, pour le coup, d'analyse historique précise, hein, du contexte culturel, des sources et des cadres, des représentations qui vont être celles d'un groupe donné, en l'occurrence là, une armée en train d'envahir. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, cette culture-là, elle est là avant, pendant, après le conflit. Qu'est-ce qui fait qu'elle va se changer en milieu propre à propager la rumeur? Il faut un deuxième élément, donc c'est le deuxième point, il faut un événement fortuit. Un événement fortuit qui va être interprété de travers, nous dit Bloch. Et alors, il continue hein, en disant que pour que la légende naisse, il suffira désormais d'un événement fortuit, une perception inexacte, ou mieux encore, une perception inexactement interprétée. Voici entre plusieurs un exemple caractéristique. Il cite là le travail de ce sociologue belge. Des ouvertures étroites, fermées au moyen de plaques mobiles en métal, sont pratiquées dans la plupart des façades de maisons en Belgique. Ce sont des trous de ourdage destinés à fixer les échafaudages de plafonneurs ou de peintres de façade, correspondant au motif de crochet qui, en d'autres régions, remplit le même office. Cette habitude de construction est, semble-t-il, propre à la Belgique, du moins est-elle étrangère à l'Allemagne. Le soldat allemand remarque les ouvertures, il n'en comprend pas la raison d'être, il cherche une explication. Or, il vit au milieu des images des francs-tireurs. Quelle explication imaginerait-il qui ne lui soit suggérée par cette idée fixe? Les yeux mystérieux qui percent la face de tant de maisons, ce sont des meurtrières. Se préparant de longue date à une guerre de guérilla et d'embûches, les Belges les ont fait établir, comme dit une brochure vendue hélas au profit de la Croix-Rouge, nous dit Marc Bloch, par des techniciens spécialistes. Ce peuple n'est pas seulement homicide, il a prémédité ses assassinats. Ainsi, une innocente particularité architecturale passe pour la preuve d'un crime savamment mûri. Supposons maintenant que dans un village bâti de la sorte, quelques balles parties d'on ne sait où viennent à s'égarer. Comment ne pas penser qu'elles ont été tirées à travers ces « meurtrières » entre guillemets? En bien des cas, sans doute, on le pensa, et les troupes firent prompte justice des maisons traîtresses et de leurs habitants. D'autres conjectures de même force entraînèrent des châtiments aussi bien fondés. Et là, il va ensuite montrer comment la rumeur va s'emballer et s'auto-valider, en quelque sorte. Du moment où l'erreur avait fait couler le sang, nous dit Bloch, elle se trouvait définitivement établie. Des hommes animés d'une colère aveugle et brutale, mais sincère, avaient incendié et fusillé. Il leur importait désormais de garder une foi parfaitement ferme en l'existence d'atrocités qui seules pouvaient donner à leur fureur une apparence équitable. Et là, on a un mécanisme qui s'enclenche, c'est-à-dire qu'on a cet état de psychologie collective, on a un événement fortuit, on a l'interprétation de travers qui est du coup effectivement biaisée par un biais cognitif, hein, par justement le milieu de départ, et à partir du moment où le sang est versé au nom de cette erreur initiale-là, de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Donc la rumeur prend corps, effectivement, au sein de l'armée allemande, et il va falloir une troisième condition pour qu'elle s'étende à l'arrière, ben, c'est la transmission, justement, vers l'arrière. Et alors, il remarque que toutes ces fausses nouvelles, elles se formèrent dans les armées mêmes, sous le feu. Et elles furent transmises vers l'intérieur du pays, d'abord de première main par des lettres des combattants et par les rapports des blessés, qui, en ce premier jour de la guerre, eût osé contredire un soldat frappé sur le champ de bataille. Là, évidemment, c'est la crédibilité du témoin au front qui prime sur toute la prudence qu'on peut avoir en temps normal vis-à-vis de témoignages. Puis, deuxième vague, une seconde main, il y a les récits des journalistes et des infirmières. Bien entendu, en passant des uns aux autres, elles ne manquaient point de s'amplifier et de s'embellir. Surtout les milieux de l'arrière, plus réfléchis, souvent plus instruits, les élaborèrent de façon à mieux les coordonner entre elles et à leur conférer une sorte de caractère rationnel. Alors ça, c'est à la fois simple, je dirais, comme dans l'analyse, mais ça implique effectivement à une certaine rigueur. C'est-à-dire que quelque chose qui, au départ, effectivement, part d'une erreur, qui sans doute aura été corrigée assez facilement dans une situation normale, va donc se transmettre et être ensuite théorisé et rendu cohérent par l'arrière, justement, qui n'est pas dans ces mêmes conditions, qui, elle, fonctionne de manière habituelle, c'est-à-dire essaye de donner une cohérence à des informations qu'elle a décidé de considérer comme crédibles. Et donc, il conclut ce deuxième chapitre en disant que une unité profonde animait déjà toutes ces légendes, née au front d'un état d'âme commun. Et dans le cas de l'Allemagne, il nous dit « L'esprit de la bourgeoisie allemande, méthodique et un peu pédant, en fit un système d'erreurs bien construit et fondé sur l'histoire. » Il nous cite notamment, alors là c'est la cerise sur le gâteau, dans la mesure où sur ce travail de mise en forme à l'arrière, qui va rendre cohérent quelque chose qui en réalité est faux, il nous cite notamment les travaux de certains historiens de l'art qui sont allés expliquer que finalement les atrocités des francs-tireurs en Belgique, elles étaient déjà, pour qui savait lire, inscrites en puissance dans tout l'art flamand. Voilà. Et donc là, on a effectivement l'ensemble du dispositif qui est en place. Donc on a les experts, les éditorialistes ou les experts de l'art flamand qui vont nous expliquer que bien évidemment, de tout temps, les Belges ont de toute façon été des meurtriers assoiffés de sang et que pour qui sait regarder correctement la peinture flamande, en fait, il ne sera pas surpris par ce qu'il va observer. Donc ces trois étapes, à partir d'un exemple concret, l'existence d'un état d'âme collectif, lui-même formé par toute une éducation, une culture, ensuite un événement fortuit, une interprétation erronée, et ensuite la manière dont ça va être transmis vers l'arrière, transmis et construit en quelque sorte comme une espèce d'information cohérente. On a là effectivement une espèce de schéma qui peut-être, en tout cas, servir de méthode pour comprendre ce phénomène des fausses nouvelles de guerre. Alors avant de terminer, on va peut-être faire une petite pause musicale rapide. Et puis ensuite, on verra comment Bloch, du coup, essaye de conclure à partir de ce schéma qu'il propose. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie, donc dans un format un peu spécial ce soir, puisque je vous présente tout seul avec José en technique un texte, un classique de Marc Bloch qui s'appelle Les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre. Et vous venez d'entendre The Hawks, qui est sur un morceau qui s'appelle World War III de 1980 et qui vient à point nommé. Donc pour illustrer ce texte de Marc Bloch, et donc un classique qui date de 1921 mais qui n'a rien perdu de son actualité, réédité chez Alia en 2019. Et que Bloch consacre donc à l'apparition des rumeurs, qui ne sont donc pas à confondre avec les intoxications ou les manœuvres de propagande en contexte de guerre. Et on a vu comment, à partir d'un certain nombre d'exemples, que Bloch n'a pas la prétention de présenter comme exhaustif, il essaie de dégager une espèce de schéma, des conditions qui permettent de comprendre comment des rumeurs peuvent naître de manière quasi spontanée, on va dire, dans des situations de conflit militaire. Alors pour terminer, je voudrais peut-être dire quelques mots sur justement les conclusions qu'il essaie de proposer, ou les hypothèses plutôt, qu'il va essayer de proposer à la fin de cet article concernant les fausses nouvelles de guerre, les légendes de guerre. Alors il nous dit, donc c'est page 40, je cite Marc Bloch, c'est une conclusion générale que les études futures devront sans doute prendre comme une idée directrice afin de vérifier si elle s'applique à tous les cas. On peut la formuler comme il suit, une fausse nouvelle n'est toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations. Mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement, nous dit Bloch. Et ce qui l'amène à dire qu'au fond, la fausse nouvelle est finalement le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. Alors, ici, je signale juste qu'il y a, c'est quelque chose qui mériterait sans doute d'être creusé, mais ce qui vient de dire là ne ressemble en fait sous une autre manière à des formules qu'on peut trouver par exemple chez Mouzil dans L'homme sans qualité, lorsque Mouzil s'intéresse aux causes qui sont elles pour le coup déclenchantes de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est un contexte un petit peu différent, c'est une réflexion sur les causes qui produisent des événements historiques, mais on a quelque chose qui, en tout cas, voilà, ne décrit pas tout à fait le même phénomène, mais pourrait converger, à savoir, c'est finalement une réflexion sur qu'est-ce qu'il y a de déterminé et qu'est-ce qu'il y a de fortuit ou de contingent dans l'apparition d'un événement historique. Alors ici, il s'agit d'une rumeur et d'un mécanisme particulier, mais il y a une espèce de prudence et de grande précision qu'on trouve à la fois chez Bloch et chez Mouzil pour ne pas justement écraser en quelque sorte l'apparition d'un phénomène historique ou d'un événement historique sous des lois de causalité un peu simples ou un peu simples entre guillemets, mais qu'on pourrait sur un modèle qui est celui de la physique au fond. En fait, l'histoire c'est pas de la physique. Voilà, il y a effectivement des choses qui sont déterminées. Il y a un baril de poudre qui est là, qui est disponible, mais pour que le baril de poudre explose, il faut une étincelle. Et cette étincelle, en fait, elle obéit pas à des lois particulières. Alors, bien évidemment, on peut expliquer pourquoi les barils sont là. On peut expliquer indépendamment pourquoi, effectivement, la mèche va s'allumer. Mais le fait que la mèche s'allume n'est pas forcément toujours lié à une intention précise, à une loi de l'histoire quelconque. Et il me semble que là, il y aura des rapprochements, en tout cas, qui pourraient être intéressants. Alors, cette conclusion donc de Bloch, elle l'amène aussi à préciser, c'est des points, alors il n'a pas le temps de développer, c'est un petit peu dommage, mais il propose à la fin du texte presque aussi, alors ça c'est l'analyse un peu historique qu'il a fait, mais il y a à la fin du texte quelque chose de très intéressant aussi, ce qu'on pourrait appeler une espèce de géographie des légendes. C'est-à-dire qu'en fait, il s'intéresse à la manière dont en fait la légende va se construire, se constituer en fonction des zones. Alors, de la zone de naissance, de la zone de transmission première, et ensuite de la zone d'élaboration cohérente à l'arrière. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Pour expliquer ça, il parle d'un exemple personnel, en fait, qu'il a lui-même vécu sur le front. En fait, il raconte que suite à une mission qu'on lui avait recommandé en fait d'aller faire des prisonniers pour se renseigner sur l'état des troupes allemandes en face avant de lancer une offensive. Je crois que c'est au moment de la bataille de la Somme. Et en fait, il va avec quelques hommes faire un coup de main en fait sur un poste ennemi, et puis il va effectivement ramener un prisonnier qui décrit comme en fait un drapier plutôt âgé, réserviste, originaire de la ville de Brême en Allemagne. Et donc il l'interroge, il fait un premier interrogatoire sur la ligne de front, et puis ensuite il l'envoie à l'arrière pour effectivement qu'il soit interrogé par l'état-major et par les services responsables de l'offensive, etc. Et là, au bout de 3-4 jours, en fait, lui revient en fait en boomerang une rumeur, et il comprend très vite que du coup cette rumeur-là, elle est née justement suite à au prisonnier qu'il a lui-même envoyé et qu'il a lui-même interrogé. Et en fait, la rumeur, c'est quoi? C'est qu'en fait, on vient de découvrir qu'il y a tout un réseau d'espions allemands qui étaient installés en France avant la guerre, et qu'on vient d'en capturer un, et qui lui était un drapier installé dans la ville de Brenne dans la Somme, et depuis des années. Et en fait, il réinterroge, en l'occurrence, c'est un cantinier, en fait, qui lui rapporte ça. Et il comprend qu'en fait, que cet Allemand drapier, en fait, c'est celui qu'il a lui-même interrogé. Et là, on a un bug au départ, qui est évidemment sur celui du mot lui-même. C'est-à-dire que le mot de Brême, en fait, a été compris comme le mot de Brenne. Voilà, Brenne étant un petit village paumé dans la Somme, derrière les lignes françaises. Et il comprend là, du coup, effectivement, qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a une première vrille, et que cette vrille est en train, justement, de donner lieu à une nouvelle légende. Et ça l'amène à réfléchir, justement, sur la circulation, en fait, de la nouvelle, et comment la circulation territoriale. Hein. Et donc, il nous dit, au fond, pour que la légende naisse, en fait, il nous dit, voilà, la raison, c'est que les fausses nouvelles ne naissent que là où des hommes venant de groupes différents peuvent se rencontrer. Et il s'aperçoit qu'en fait, pour que la légende se constitue et apparaisse comme une espèce de légende, ben, c'est pas directement sur le front que ça se passe, en fait. Là, en l'occurrence, c'est sur la zone intermédiaire, là où il y a les cantiniers, là où il y a en fait les courriers qui arrivent, donc un peu en retrait des tranchées, parce que là, il y a de la rencontre. Donc d'une part, les déformations, voilà, c'est le téléphone arabe, hein. Donc d'une part, le téléphone arabe peut fonctionner, donc commencer à établir des distorsions par rapport à l'événement premier, donc il y a de plus de grandes chances pour que ça se produise. Et en plus, il nous dit aussi que c'est là où en fait la crédibilité en fait des gens qui se rencontrent, parce que c'est pas non plus c'est pas le café du coin, si vous voulez, le lieu où les cantiniers, où le courrier arrive, etc. C'est pas le café du coin. C'est là où en fait il y a des navettes vers l'arrière qui sont régulières, mais quand même relativement rares. Et en fait, il fait l'hypothèse que finalement la crédibilité qu'on va donner à quelqu'un qu'on voit régulièrement, mais assez rarement, est beaucoup plus importante que celle du type qu'on va croiser, par exemple, au café tous les jours, et avec qui on va se prendre le chou très régulièrement, et dont on va corriger spontanément, en fait, hein, les affabulations, ou dont on va corriger les exagérations. Là, en fait, il y a autre chose qui se passe. Et alors, il décrit, ça, je trouve ça très intéressant, cette espèce d'approche géographique, hein, de la rumeur. Ça, comme ça, on va peut-être terminer là-dessus. Hein. Il nous dit, on ne saurait imaginer d'existence plus isolée que celle du soldat aux avant-postes, au moins pendant la guerre de position. Les individus, il est vrai, ne vivaient point seuls, mais ils étaient répartis par petites fractions fort séparées les uns des autres. Se déplacer, c'était d'ordinaire risquer la mort. D'ailleurs, le soldat n'avait point le droit de bouger sans ordre. L'histoire a dû connaître des sociétés ainsi dispersées où le contact entre les différentes cellules sociales ne se faisait que rarement et difficilement. À époque variable, par les cheminots, les frères quêteurs, les colporteurs, plus régulièrement aux foires ou aux fêtes religieuses. Le rôle des colporteurs ou des vagabonds de tous ordres, voyageurs intermittents dont le passage échappait à toute prévision, était joué au front par les agents de liaison. Les téléphonistes réparant leurs lignes, les observateurs d'artillerie, tous gens d'importance que les gradés interrogeaient avidement, mais qui frayaient finalement peu avec les simples troupiers. Les communications périodiques, beaucoup plus importantes, étaient rendues nécessaires par le souci de la nourriture. L'agora de ce petit monde des tranchées, ce furent les cuisines. Là, une ou deux fois par jour, les ravitailleurs venus des différents points de l'avant se retrouvaient et bavardaient entre eux ou avec les cuisiniers. Ceux-ci savaient d'ordinaire beaucoup, car ils avaient le rare privilège de pouvoir quotidiennement échanger